Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Sylvie du studio du Boulve. Et aujourd'hui pour l'émission Fenêtre sur soi, eh bien c'est Daniel qui va être notre invité. Daniel, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle anime cette émission, elle a reçu pas mal de gens. Je vous signale par ailleurs que ces émissions sont à retrouver sur notre site internet. Alors bonjour Daniel, et on va parler de toi pour ce début d'année.
Bonjour et merci de me recevoir.
Non, c'est un minimum. Donc, tu es thérapeute et thérapeute émotionnelle. Mais aujourd'hui, il s'avère que tu as créé un intitulé qui s'appelle Elficothérapie. Qu'est-ce que c'est ?
Initialement, l'appellation va être l'appellation générique psycho-émotionnelle, comme tu l'as dit. Concrètement, je ne me retrouvais pas du tout dans cette appellation. Ça fait quelques années maintenant que j'exerce la profession. Et de fil en aiguille, d'interprétation en interprétation, je ne me sentais plus vibrée avec cette définition très rigide et très conventionnelle de psycho-émotionnel. Et un jour, 2019, après mûre réflexion, je me suis décidée à franchir les portes de l'INPI pour faire breveter une appellation qui corresponde davantage à qui je suis. Et en effet, j'ai créé ce qui s'appelle aujourd'hui l'elficothérapie. Alors, l'elficothérapie, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un condensé de tout le reste, le côté psycho-émotionnel avec tous ces outils, toutes ces connaissances, mais avec le petit truc en plus qui me correspond davantage, ce petit côté un petit peu, solaire et poétique, qui pour moi résonne plus que l'appellation conventionnelle et rigide. L'elficothérapie, pour moi, c'est avant tout un mot. Le mot, il peut être pris sous différents sens. Il peut y avoir l'interprétation légère, on entend le côté elfico, bien sûr. Alors je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas initialement d'une thérapie elfique. Je précise, je ne suis pas elficologue, c'est une profession à part entière, oui. Elficothérapie, c'est un condensé de plusieurs énergies. Le mot en lui-même peut être un soin, si on peut l'interpréter comme cela. Pour moi, elficothérapie, il faut l'entendre dans la résonance, un peu dans ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Il y a le « L », avant tout, qui signifie le côté absolu, le côté tout. Donc j'ai fait véritablement un condensé de différentes langues, de différentes linguistiques. Le phi, qui est le nombre d'or. Le ko, qui veut dire ensemble. Moi, finalement, je l'ai symbolisé par le namaz, qui est une rune celte, qui veut dire ensemble, qui veut dire uni. Et le thérapie, finalement, je l'ai également décomposé. Le terra, c'est un papillon bâtisseur. Le pi, c'est la constante du cercle, tout simplement. Mais après, chacun peut l'interpréter comme il entend. Et c'est là aussi toute la poésie de ce mot. On peut juste s'arrêter à l'interprétation elficothérapie dans sa définition légère et poétique et qui va porter vers un univers autre. Parce que avant toute chose, ce que je souhaite dans mes accompagnements, c'est ça, c'est apporter cette énergie qui est la mienne, cette vibration qui est la mienne, en dehors des protocoles stricts, des thérapies conventionnelles, dans lesquelles j'ai toujours baigné et finalement que j'apporte, mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec ma petite note en plus.
Dans l'elficothérapie, il y a pas mal d'outils que tu utilises, on va en parler, et ce sont lesquels ?
Alors, le premier outil, c'est la communication. Quand une personne vient me voir, la première chose, c'est de pouvoir avoir un échange verbal, même si le verbe n'est que 1% de l'échange complètement, parce qu'il y a tout l'échange corporel, il y a tout l'échange d'attitude, de regard ou autre que moi je vais interpréter et qui va me permettre d'entendre plus facilement la demande derrière. À savoir que mon concept thérapeutique aujourd'hui s'adresse à tout le monde, tout public, à partir de 6 ans, jusqu'à n'importe quel âge, bien sûr. Par contre, je ne travaille pas sur les traumas, dits traumas lourds, pour le cas, je vais préférer orienter les personnes vers des professionnels qui ont cette spécificité. Je garde toujours à l'esprit que ce n'est pas le thérapeute qui guérit, mais c'est un ensemble. C'est une alchimie qui va se poser entre l'accompagnant et l'accompagné. Et dans ces deux différents outils, il y a donc la communication, il y a un travail de cognitivité. Donc on va travailler soit par des exercices ludiques, parce que c'est avant tout la base, hein, on va rester dans le ludique, pour que ce soit plus facilement accessible. Il y a aussi le côté un petit peu créatif, même si je ne suis pas art-thérapeute, je le précise. Donc il y a le côté créatif, où on va peut-être faire des constructions, des schémas, des dessins, pour pouvoir mettre dans le concret, dans la densité finalement, ce qui peut se passer à l'intérieur. Puisque avant tout, l'objectif, c'est de pouvoir mettre à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de manière à pouvoir l'observer véritablement.
Mmh. Essentiellement, les gens qui viennent vers toi, qu'est-ce qui les motive ?
Alors, il y a différentes personnes. Ça peut partir de ce qu'on va définir comme une problématique sociétale, hein, l'impression de ne pas se sentir à sa place, l'impression de ne pas être bien, hein, dans la définition du bien-être comme on en entend parler aujourd'hui. Et il peut y avoir aussi ce qui arrive très souvent et ce qui fait partie essentiellement des passages, ce sont des personnes en difficulté sentimentale. Voilà. Soit suite à une rupture, soit dans une relation compliquée où il y a de l'amour, mais il y a une difficulté de communication. Quelqu'un, on va essayer d'installer ensemble la communication, mais avant, on va observer ce qui se passe et pourquoi ça coince. Il peut y avoir justement des adolescents en difficulté émotionnelle, en transition de vie, qui vont avoir ces problématiques-là. Il peut y avoir également, pour le coup, là, ça va être mis en lien avec mes collègues qui sont thérapeutes corps, des personnes qui présentent une problématique physique récurrente, d'où on voit l'origine émotionnelle. Donc, dans ces cas-là, ça va être un travail en lien entre mes collègues ou d'autres praticiens qui va permettre de dénouer la problématique de ce que va vivre la personne dans l'immédiat.
Mmh. Alors, parmi tous les outils que tu utilises, il y a aussi l'olfactothérapie. Oui. Alors, c'est tout un programme, l'olfactothérapie. Tu peux nous expliquer ?
Alors, l'olfactothérapie, en fait, comme tu dis, c'est tout un programme. C'est même une thérapie magique. J'appuie bien le mot magique à part entière. Parce qu'on peut constater que par le biais olfactif, avec un spectre d'odeurs bien déterminé en fonction des problématiques ou des situations émotionnelles de la personne, on peut désamorcer des traumatismes inconscients. Donc quand je dis traumatisme inconscient, ça peut être un blocage émotionnel à une période déterminée de notre vie qui a été occulté pour différentes raisons de vie, ce qu'on appelle souvent un traumatisme. Et à un moment, ça se réveille, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas bien. Et on creuse et on ne trouve pas. Et dans ces phases-là, l'olfactothérapie a l'avantage, c'est d'aller chercher l'information en douceur. Elle va ramener l'information à la mémoire, pas forcément sous les traits que l'on peut imaginer, pas forcément dans l'immédiat. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'après une séance, il faut compter entre 48 et 72 heures de réactivité. Hein, voilà, j'irais dire que j'assure le service après-vente jusqu'à 72 heures. En principe, après 72 heures, le corps ne va pas réagir. L'olfactothérapie va immédiatement faire appel à ce qu'on appelle notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel. C'est notre base de données, finalement, viscérale, hein, interne. Et en fait, l'information, elle va aller la chercher, elle va aller la détecter. Et pour ce faire, moi, je vais utiliser notamment ce qu'on appelle les huiles essentielles. Il n'y a aucune application cutanée. Hein, donc, pour le coup, dans la notion des contre-indications, elles sont assez minimes, même si je déconseille aux femmes enceintes, aux enfants, ainsi qu'aux personnes souffrant d'épilepsie, d'utiliser ces essences-là. Et pour les personnes qui souhaitent effectuer une séance d'olfactothérapie pour un travail déterminé et qui sont dans un cas de figure comme là, femme enceinte, maladie nerveuse ou un enfant, dans ces cas-là, je vais utiliser un autre support. Ça peut être les condiments dans une cuisine, tout simplement, du parfum, tout simplement aussi, ou une plante directement, tout ce qui va permettre d'aller au plus profond de la mémoire.
Alors j'ai lu que même dans les hôpitaux, on s'en servait de l'olfactothérapie.
Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de travailler en maison de retraite, notamment sur une dame souffrant d'Alzheimer type 3, donc un cas très avancé d'Alzheimer. Et en fait, l'olfactothérapie ne va pas ramener, pour le coup, la mémoire, hein, mais va permettre de ramener dans un présent et dans une sécurité émotionnelle. Parce qu'on parle notamment, là je parlais d'Alzheimer, l'Alzheimer, la personne est en panique émotionnelle quand elle est dans ces phases de délire finalement d'oubli, dans ces phases de maladie. Et ce qui est important aussi, c'est que l'olfactothérapie va ramener à l'instant émotionnel. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée pour un public comme ça, par contre, c'est de travailler davantage avec des supports neutres, comme des fleurs, comme des parfums, comme des condiments, plutôt qu'avec des huiles essentielles qui pourraient, avec leur spectre assez spécifique, induire autre chose.
Donc, ça marche avec les gens qui perdent la mémoire. Ça marche aussi, ce que j'avais lu, avec les gens qui sont même dans le coma, dans les hôpitaux, j'entends. Hein.
Alors, on est exactement sur le même principe que les cas d'Alzheimer. C'est-à-dire que dans le coma, on tient compte que la personne est consciente et présente. Donc, par le biais de ces spectres olfactifs, on va donner et aller chercher des informations à la personne. En fait, les odeurs sont adaptées à la demande. Je vais donner un exemple plutôt neutre. Tout le monde aujourd'hui connaît l'odeur de la lavande, notamment. En allopathie, on va utiliser l'huile essentielle de lavande essentiellement pour apaiser, réconforter, voire pour permettre de dissoudre des migraines. Donc on voit sur le plan allopathique que cette odeur, cette composition va permettre une action sur la sérénité, sur l'apaisement. Donc en olfactothérapie, quand on va utiliser par exemple une huile essentielle de lavande, donc j'utilise volontairement la lavande parce que c'est la plus neutre, c'est celle qui a un spectre assez large, et si on la choisit bio de préférence, c'est l'huile essentielle qui a le moins de connotations négatives en toxicité.
Dans les huiles essentielles, il y a des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond.
Tout à fait, comme le parfum, de toute façon c'est la base du parfum. C'est le parfum. Et en olfactothérapie, on va se servir justement de ces différentes notes pour aller chercher l'information. Et pareil, en olfactothérapie, il y a plusieurs notions d'information et d'école. Vous allez avoir l'olfactothérapie classique avec sa palette d'odeurs déterminées, c'est-à-dire sa palette de composition déterminée qui va permettre d'aller sur un style d'odeur prédéterminé. Je pense notamment à des compositions qui ont vu le jour il y a quelques années déjà. C'est une composition pour rappeler l'odeur iodée, parce qu'on a pris connaissance que l'iode et ses bénéfices favorisaient la santé de l'organisme. Donc, dans cette mémoire sensorielle, c'était recréer cette odeur, finalement, pour leurrer l'organisme, afin qu'il développe un bien-être adapté. Donc, cette composition, c'était coco-citron. Voilà, on fait un mix coco-citron et on obtient le leurre de l'iode. Beaucoup de concepteurs de bougies, d'huiles essentielles ou autres se sont relativement adaptés. Vous avez aussi l'assemblage ananas-citron qui va également rappeler à dosage bien spécifique ces odeurs-là. Mais tout reste de l'ordre de la composition, c'est vraiment au milligramme près. Alors, ça va dépendre de la personne. En olfactothérapie, on travaille sur ce qu'on appelle l'énergétique de la personne. Si c'est une personne qui va être cérébrale, on va utiliser des notes de tête légères, donc florales. Si c'est une personne qui est dite émotionnelle, donc plus vraiment dans le ressenti, on va utiliser ce qu'on appelle des notes de cœur, mais qui peuvent être elles aussi florales, en fait. Et si c'est une personne qui est beaucoup plus concrète et dans la densité de la matière, là, pour le coup, on va utiliser des notes de fond et elles peuvent être également florales. Donc, c'est important d'observer qu'il y a les notes boisées, il y a les notes florales, il y a les notes de terre, il y a les notes fruitées, il y a les notes tubercules. On a une multitude de palettes et qui va véritablement s'adapter à l'individu à part entière.
De l'importance, avant que tu ne fasses ce traitement à base d'olfactothérapie, c'est justement la communication, comme tu disais, en tout premier lieu, pour savoir un peu à qui tu as affaire.
Tout à fait, parce qu'en fait, l'olfactothérapie, c'est un outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, magique.
Oui, tiens, en quoi d'ailleurs ?
Parce que justement, il va permettre d'aller chercher l'information sans qu'on s'y attende. Une personne va venir, par exemple, parce qu'elle va rencontrer des difficultés sentimentales dans ses relations de couple. Donc, la première chose va se passer dans un échange verbal, un échange comportemental, où moi je vais scanner complètement la personne, autant sur ce que je vais percevoir, sur ce qu'elle va me dire, mais également sur sa manière d'être, hein, parce que le corps parle tout le temps. Concrètement, l'olfactothérapie ne va peut-être pas être le premier outil que je vais présenter. Si l'olfactothérapie vient, parce qu'il y a une nécessité, dans ces cas-là, je vais peut-être essayer d'utiliser, voir ce qui se passe, certaines odeurs ou certaines huiles essentielles, si pour le cas j'utilise des huiles essentielles, en rapport avec une problématique, c'est-à-dire le blocage par exemple. Et ce blocage, la personne ne va pas forcément l'identifier, mais l'odeur va peut-être la ramener à une situation de son vécu qui va lui donner des informations sur ce qui se passe aujourd'hui pour elle. Comme je dis tout à l'heure, c'est rétroactif. C'est-à-dire que là, sur le coup, on sent des odeurs, ça sent bon, ça sent pas bon, il se passe ci, il se passe ça, ok. Mais après, il y a tout le côté, c'est pour ça que je dis que c'est magique, parce qu'après, il y a tout le côté rétroactif. Et c'est comme si la problématique se dissolvait tout naturellement, toute seule. À moins de travailler concrètement sur un réel blocage à proprement parler, une séance d'olfactothérapie peut permettre de débloquer beaucoup de choses.
Et ça dure combien de temps, justement, une séance d'olfactothérapie ou une séance chez toi ?
Voilà, comme je te disais, la séance d'olfactothérapie, comme on l'interpelle, les personnes ne vont pas venir spécialement pour ça. La personne, elle va venir parce qu'elle a une problématique ou qu'elle est sur un chemin de vie, sur une démarche, qu'elle a peut-être vu déjà différents praticiens tout au cours de sa vie et qu'elle est dans un chemin, une initiation. Voilà, les sujets sont variés. Et c'est là où les nombreux outils que je vais avoir sous le coude vont m'être utiles parce que peut-être que la personne n'aura pas besoin d'une séance d'olfactothérapie. C'est-à-dire, si quelqu'un m'appelle et me dit « je veux une séance d'olfactothérapie », je vais dire non. Non, concrètement, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est un outil, ça amorce beaucoup d'informations émotionnelles et il est impératif que la personne qui vienne soit consciente de ça, de ce qui va se passer dans sa vie pendant et après la séance. Et quand tu me parles d'une question de temps, concrètement, une séance d'accompagnement dure 1h30. Et pour les moins de 18 ans, la séance dure 45 minutes.
Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller vers cette spécialisation ?
Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Qu'est-ce qui m'a amené là ? Déjà, tout un cheminement de vie. On va dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Ma maman, qui est d'une époque où la médecine alternative n'existait pas encore, investissait énormément dans toutes les ce qu'on appelle littérature de bien-être. Donc, je resitue, on est dans les années 70-80. Vraiment, on est une époque où c'est considéré comme bobo New Age, dans une population très basée sur le matérialisme et l'économie. C'était pas du tout le genre de littérature qu'une enfant pré-ado pouvait avoir. Et c'est ce que j'avais comme littérature. Et donc, quand je dis médecine alternative, à 8 ans, j'avais entre les mains des livres d'acupuncture, j'avais des manuels d'herboriste, voilà, un petit peu dans tout ce genre-là. Je crois que j'ai encore gardé quelques pépites de ce genre, aujourd'hui introuvables. Donc, elles se fournissaient à l'époque sur des... C'était pas des sites, c'était de la vente par correspondance qui était basée, je crois, en Suisse, parce qu'en France, ça n'existait pas. Donc, ça a nourri chez moi toute cette approche, hein, presque naturelle. Souvent, aujourd'hui, quand je parle avec des collègues qui me disent « Oui, mais comment tu sais ?»« Oui, mais pour moi, c'est naturel. J'ai l'impression que tout le monde sait ça. Tout le monde a été bercé là-dedans. » Et c'est pour ça que je dis que je suis tombée dans la marmite. Et j'ai très tôt été passionnée par les plantes. À la fin de mon cursus scolaire, je me suis orientée vers une formation à l'époque. C'est pareil, en France, c'était pas très référencé, mais une formation, et c'était par correspondance, donc ça me demandait aussi beaucoup d'énergie, d'herboriste. Donc j'avais pas 20 ans, je me lançais sur un parallèle herboristerie plus à côté un cursus classique, mais c'était sans objectif professionnel puisque pour moi c'était naturel. Et bon, de fil en aiguille, il y a eu cette formation là qui aujourd'hui je crois n'a aucune valeur à part m'avoir permis d'acquérir beaucoup d'informations. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai eu un parcours professionnel varié, en me cherchant de temps en temps, voilà, différentes activités. J'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans l'alimentation, j'ai travaillé en maison de retraite, voilà, j'ai travaillé en librairie. C'était vraiment assez atypique comme profession. On voit vraiment que j'étais très ouverte à tout. Et en parallèle, je me suis formée toujours autodidacte par correspondance parce que encore et toujours, eh ben, c'est pas rentable. À l'époque, ça s'appelait l'aromathérapie, mais depuis la convention fait que on ne dit plus aromathérapie, mais aromathérapeute, parce que seul un médecin généraliste a le droit d'apposer l'intitulé aromathérapie. Voilà.
Donc, la nuance est subtile. Hein.
Ah, c'est hyper subtil, mais de toute façon, tout est codifié, tout est conventionné dans ces professions alternatives qui ont été appropriées progressivement par les médecines classiques. C'est pas plus mal finalement, mais bon. Et pour moi, finalement, c'était pas visé professionnalisant, c'était pour moi pour apprendre, pour découvrir, pour m'instruire. Je suis constamment avide d'apprentissage et d'études finalement. Et de fil en aiguille, des formations en Gelstat, des formations en développement, des formations en apprentissage de la cognition, en EFT. Donc EFT, c'est un principe de tapping sur des points déterminés, des points de méridien. Donc en acupuncture, on va identifier les points de méridien, mais pas que. Donc on va travailler sur l'émotion, sur ce qu'on appelle la gestion, même si ce mot, je ne l'aime pas parce qu'on ne gère pas ses émotions. Je l'ai déjà dit et redit. Et donc, l'EFT fait aussi partie de mes outils, finalement, parce que là, tu vois, j'énumère, mais ça fait partie des outils que j'ai acquis au cours de mes années. La cognition, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Les troubles du comportement alimentaire, également, puisque les troubles du comportement alimentaire sont essentiellement émotionnels et ou mentaux. Donc, il y a aussi des orientations sur ces outils-là, bien sûr.
Donc, on va peut-être redonner toute la liste de tes outils.
Je vais essayer de le synthétiser. La séance va commencer déjà par un entretien pour savoir ce que la personne attend de moi et voir ce qu'il en est. Soit c'est une première séance qu'on appelle une anamnèse, c'est un bilan. La personne m'apporte une information et je fais un protocole mental en fonction de ce qu'elle m'apporte pour voir ce qu'il va falloir mettre en place. Donc ça se met en place. Les personnes avec qui je travaille, donc les personnes que j'accompagne, l'objectif n'étant pas de les enfermer dans un cadre délimité de rendez-vous, temps de rendez-vous, etc., elles sont toujours complètement libres, bien sûr. Il n'y a pas d'enfermement ni d'obligation. L'objectif de l'accompagnement thérapeutique, de l'elficothérapie, c'est la responsabilisation de soi, de manière à être le plus autonome émotionnellement, mentalement, physiquement possible. Concrètement, aujourd'hui, donc il y a cette démarche à poser, ce protocole établi, et en fonction de l'accord commun qu'il peut y avoir entre la personne qui vient me voir et moi, il y a tout ce panel d'outils. Je vais vaguement, en diagonale, les réénumérer de manière à ce que chacun puisse les entendre. Il y a bien sûr, ce dont on a le plus parlé, c'est l'olfactothérapie, ce côté un petit peu magique de la démarche. Il y a également l'EFT, donc Emotional Freedom Tapping, un tapping sur des points déterminés pour libérer une émotion contenue. Il y a également la cognition, donc effectuée par des exercices corporels, physiques. Donc je ne touche pas au corps. Hein. Moi, personnellement, je ne touche pas au corps, mais je suis là aussi pour proposer des exercices, le tout accessible, tout public, sans violence pour le corps, sans gestuelle compliquée, puisque le cerveau n'aime pas du tout la complexité. Si on met le cerveau face à de la complexité alors qu'on est en difficulté émotionnelle, et on ne s'en sort plus. Donc l'idée, c'est vraiment de refluidifier tout ça. Il y a aussi le côté interactif, j'irais dire ludique. Alors, j'ai notamment un jeu de fléchettes, un tapis de golf, des raquettes de badminton, du hula hoop, de la pâte à modeler, des Legos, des poupées mannequins, des costumes, etc. Et il y en a encore plus. Donc ça, ça fait partie des outils dits ludiques où on va, pour le coup, essayer de mettre dans le concret une émotionnalité qui a peut-être difficulté à sortir. Il y a également le côté plus interactif où je vais régulièrement proposer des lectures aux personnes, des lectures inspirantes ou des vidéos inspirantes qui peuvent permettre tout un chacun, dans son chemin personnel, à pouvoir travailler quelque chose qui lui est propre. Et il y a aussi une étape importante, à mon sens, qui fait partie de l'accompagnement pour ceux qui le souhaitent. C'est-à-dire, je peux aussi intervenir dans la dimension de l'habitat, à savoir que je ne suis pas géobio, je ne suis pas dans le travail rééquilibrage énergétique de l'habitat, ou du moins pas comme on peut l'entendre. Mais c'est aussi prendre en compte que quand on souhaite améliorer quelque chose à l'intérieur de soi et que quand on rentre chez soi dans un habitat figé, énergétiquement ou dans l'ensemble, finalement, on a l'impression de tourner en rond et ce qu'on a fait juste avant dans la séance, c'est caduque. Donc, quand j'interviens sur l'habitat, déjà, j'observe comment est l'habitat. Est-ce que la personne n'a pas possibilité d'améliorer quelque chose pour elle-même ? Peut-être, est-ce qu'il y a une énergie, si on peut appeler ça comme ça, qui entraverait la personne dans sa démarche ? Est-ce que peut-être un agencement ? Vous savez, quand on a envie de se vider la tête, des fois, on va commencer par réagencer son habitat. On repositionne les meubles et puis c'est jamais la bonne place. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que rentrer chez soi après une séance de thérapie, quelle qu'elle soit, dans un habitat encombré, ne permet pas de tirer les bénéfices et au contraire nous renferme dans quelque chose de pesant. Donc quand j'interviens sur l'habitat, c'est aussi ça, c'est indiquer à la personne si c'est OK, si c'est pas OK, selon mon ressenti dans ce que je vois et l'objectif de la personne, et qu'est-ce qui peut être fait. Et si c'est énergétique ou à empreinte énergétique, dans ces cas-là, je propose une adresse de personne, une liste de personnes qui pourraient intervenir pour la personne concernée. Si c'est juste organisationnel, et dans ces cas-là, tout le monde se remonte les manches. Et ça fait partie de l'accompagnement aussi. C'est s'il y a besoin d'affaires du tri, ça fait partie de la thérapie à insuffler cette dynamique de faire du tri aussi. Et il y a également, ça j'en parle peut-être un peu moins, dans l'accompagnement des animaux, qui fait partie de la complémentarité, qui pour moi a une grande importance aussi, puisque ça fait partie du vivant et c'est... À mon sens, pour toute personne qui a un compagnon animal, peut le comprendre et le percevoir, cette importance relationnelle qu'il peut y avoir, souvent un surinvestissement émotionnel ou un détachement. Il y a plein d'informations. Donc, je travaille aussi avec le comportement animal énergétique.
Alors, si vous aussi, vous avez besoin de détente, que l'on prenne soin de vous, de lâcher les tensions. Et par les temps qui courent, ma foi, je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça pourrait faire du bien, nous d'ailleurs. On peut te retrouver donc au cabinet Claude Duras, à Luzèche. Et quels sont les horaires et les jours d'ouverture ?
Alors, c'est du lundi au samedi. En semaine, c'est de 10h30 à 18h. Et le samedi, c'est de 10h30 à 13h. Voilà. Voilà, alors j'ai une page Facebook perso, mais qui est perso, qui n'est pas du tout pro. Et il y a la page commune des thérapeutes du cabinet Claude Duras, page Facebook, cabinet Claude Duras, tout simplement.
Quelques mots sur tes collègues ? Quel genre de thérapie propose-t-elle ?
Alors, il y a Marie-Hélène Godard qui propose la biokinergie, donc une thérapie corps. Vous avez Pauline Ventroy qui propose la médecine chinoise traditionnelle, shiatsu, acupuncture et accompagnement. Vous avez également Nelly Oulieda-Blanc qui est sophrologue. Vous avez Christelle Vettori-Vidal qui est naturopathe. Et vous avez Pascaline Willem qui prodigue des massages.
Tout pour se sentir mieux.
C'est un cabinet essentiellement tourné vers le bien-être et vers l'accompagnement bienveillant, je dirais.
Alors, on n'oublie pas de rappeler non plus que tu animes l'émission Fenêtre sur soi. Donc, toutes les émissions que tu as déjà proposées, on peut les retrouver sur le site de Antenne Doc, à la rubrique Santé. Et puis, tu vas revenir bientôt pour nous en proposer une autre.
Oui, j'ai beaucoup de programmes dans mon sac à malice. Et j'éprouve un grand plaisir à proposer ces émissions en ta compagnie, justement. Parce qu'on l'oublie souvent. Moi, je suis de ce côté du micro, mais Sylvie fait tout le travail de régie derrière. Et c'est une équipe, Fenêtre sur soi, avant toute chose. Et on a la chance de recevoir des praticiens, et pas que, parce qu'on n'a pas eu que des praticiens thérapeutiques, on a eu aussi des personnes travaillant sur le vivant, sur l'interaction et sur des solutions de projets renouvelables.
Et des gens qui avaient aussi quelques petites pathologies bien
embêtantes. Et des personnes qui avaient, comme tu dis, des difficultés, des pathologies, bien sûr. C'est un micro ouvert aux personnes qui travaillent avec le vivant et ou qui ont envie de communiquer quelque chose en trait avec la santé et le bien-être, bien sûr. Et je tiens, par le biais de ce micro, déjà, même si ça a déjà été fait, à remercier toutes les personnes qui sont venues partager toutes ces émissions courant 2021 avec nous. Toutes ces personnes qui sont venues porter avec toute la sincérité, toute la vibration qui émanait d'eux, toute l'honnêteté qui émanait d'eux. Et pour cela, je tiens vraiment à vous remercier tous. Et pour moi, c'est quand même un projet complètement novateur. Et voilà, et je crois que 2022 s'annonce avec de très beaux programmes.
Eh bien, c'est super. Tu as choisi, pour terminer cette émission, que l'on passe une chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Et pourquoi as-tu choisi celle-ci ?
Je crois que dans une époque où tout le monde est aliéné par les médias, par les peurs, par les conventions, les protocoles, les anxiétés, il est peut-être aussi bon de rappeler qu'il n'y a pas une seule réalité, que chacun a la possibilité de créer sa réalité et que cette réalité peut être magnifique, peut être magique.
Eh bien merci, ça donne de l'espoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.